franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Faut-il aller chercher du pétrole toujours plus profond sous la mer? Question posée donc aujourd'hui à la une de la science.
Alors je crois qu'il y a une demande en énergie, en pétrole, à laquelle il faut répondre. Et effectivement, on va chercher ce pétrole maintenant dans des zones de plus en plus difficiles. Il faut qu'on arrive effectivement à concilier environnement, production pétrolière, réponse à la demande. L'énergie, c'est quand même le moteur de la croissance. Donc il faut qu'on y réponde d'une manière ou d'une autre.
Et c'était la voix de Patrick Haas, le PDG de British Petroleum en 2005, hein, Catherine de Copé.
Oui, alors c'est demain que va s'ouvrir à Pau le MCE Deepwater Development, un colloque réunissant les plus grands de l'industrie pétrolière, je l'ai dit. Alors pourquoi à Pau? Parce que c'est là que Total y a l'un de ses centres de recherche-développement. Un événement qui est très contesté, on va le voir, par de nombreuses ONG qui soulignent les risques importants de l'exploitation en eau profonde sur le climat et la biodiversité.
Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes rédacteur en chef de reporter.net et puis en ligne avec nous Mathieu Ozano. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes expert sur le pétrole, chargé de la prospective au Shift Project et vous êtes auteur notamment d'un livre hors noir, La grande histoire du pétrole aux éditions de La Découverte. Hervé, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi on parle de cette exploitation du pétrole en eau profonde? De quoi il s'agit exactement?
Eh bien, il s'agit d'aller très en profondeur, c'est-à-dire la frontière a été progressivement reculée dans les années 70. 300 mètres, c'est extraordinaire. Maintenant, on est à plus de 2200 mètres de profondeur. Et c'est une aventure technologique qui fait rêver les ingénieurs pétroliers. Parce que plus on va en profondeur, donc on va au fond de la mer et ensuite on creuse dans les sédiments, dans la roche, eh bien la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres. À 1500 mètres de profondeur, vous avez une pression de 6 tonnes sur une surface de la taille d'une carte de visite, la température est inférieure à 4 degrés, enfin bref, c'est une complication technologique énorme, mais il y a encore beaucoup de pétrole parce qu'on n'en trouve plus beaucoup à terre. Ouais. Par exemple, Total estime qu'il y a dans les eaux profondes ou sous les eaux profondes 365 milliards de barils de pétrole. Problème, aller le chercher, c'est très coûteux. Et quand le pétrole est à moins de 40 dollars le baril, eh bien,
on a pas beaucoup d'argent de côté, pour aller creuser aussi profond. Catherine.
Oui, Mathieu Ozano. Alors, pourquoi on devrait aller chercher le pétrole aussi loin, aussi bas? Expliquez-nous un peu le contexte.
Hervé Kempf l'a un petit peu dit, parce que l'industrie n'a tout simplement pas le choix. On a épuisé à peu près tous les lieux où on pouvait forer et trouver du pétrole à terre. Puis peu à peu, on a déplacé les équipements de forage en eau peu profonde. Et puis maintenant, il faut aller chercher le pétrole toujours plus au large, toujours plus loin. Les deux grands horizons de l'industrie pétrolière, c'est aujourd'hui au large du Brésil, les forages qui sont faits sont pratiquement à 10 km sous la surface des flots. Faut imaginer le défi technologique que ça représente. Et au-delà de ça, la frontière ultime de l'industrie aujourd'hui, c'est le seul endroit où on n'a pas encore foré de manière systématique, c'est l'océan Arctique, c'est le pôle Nord.
Alors, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui technologiques d'aller chercher le pétrole aussi loin et sans risque, justement, Mathieu Ozano?
Alors, technologiquement, on est capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, la dernière grande marée noire qui a eu lieu dans le golfe du Mexique en 2010 a été un avertissement. Forer à de telles profondeurs, c'est s'exposer à des problèmes écologiques radicalement difficiles à contenir. Imaginons demain un forage qui tournerait mal dans l'océan Arctique, on conçoit bien qu'il serait extrêmement difficile d'aller contenir les dommages écologiques tout au nord de la planète.
La difficulté, c'est justement en raison de la pression qu'évoquait Hervé Kempf il y a un instant.
Principalement, et puis on est très au large, on est dans des zones très difficiles d'accès, loin des terminaux pétroliers où sont situés les équipements qui peuvent venir à l'aide d'une plateforme pétrolière en difficulté. Il faut bien concevoir que quand on fore à 7 ou parfois plus de kilomètres sous la surface des flots, les plateformes ne sont pas bien entendu posées sur le fond des océans, elles sont flottantes, elles sont guidées par des équipements électroniques de très très haute performance, ce sont des équipements extrêmement coûteux et c'est très difficile lorsqu'il y a problème. Les pétroliers font tout ce qu'ils peuvent pour éviter des marées noires, bien entendu, puisque non pas par souci écologique, mais parce que la dernière marée noire, celle pour BP dans le golfe du Mexique, a failli mettre BP à genoux, tellement ça lui a coûté d'argent. Donc les pétroliers font tout ce qu'ils peuvent pour éviter des dommages comme ça, mais bien entendu, plus on va forer dans des endroits extrêmes, plus le risque est grand.
Hervé Kempf.
Alors, vous évoquez les marées noires. Il y a un autre inconvénient avec le pétrole, c'est que quand on le brûle, il émet des gaz à effet de serre. Alors, est-il raisonnable de continuer à vouloir produire et à chercher plus de pétrole alors que le changement climatique est devenu un problème vital?
C'est le symbole qui est visé par les militants qui manifestent contre la tenue de ce sommet à Pau. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas réellement commencé à faire la transition énergétique. Et pour jusqu'à présent, le pétrole demeure notre source d'énergie la plus commode, la plus malléable, la plus omniprésente. Alors, quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, on parle beaucoup d'électricité, donc on parle de sortir du nucléaire pour l'Allemagne, ou de développer les éoliennes, les panneaux solaires. On n'a pas encore touché le dur de la transition énergétique, qui est les transports. Les transports aujourd'hui, transports maritimes, aériens, et bien entendu terrestres, on pense à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est à 99% sur Terre du pétrole. Et il est très difficile d'imaginer qu'on puisse électrifier massivement. Enfin, c'est une histoire qui n'a pas encore commencé, et je pense qu'on n'a pas encore commencé à prendre la mesure de l'enjeu que ça représente, une sortie du pétrole massive, rapide parce qu'il y a le problème du climat et puis parce qu'il y a le problème de l'épuisement des ressources et en bon ordre, puisque on sait que l'énergie joue un rôle fondamental dans l'organisation économique, et le jour où on commence à réduire la production pétrolière, ben c'est toute l'organisation économique de croissance qui se retrouve en danger.
Mathieu Zano, on a bien compris le risque pour le réchauffement climatique si on exploitait toutes les réserves fossiles. Est-ce que cependant les industriels aujourd'hui vont aller au bout finalement de ces projets monumentaux? Il n'y a finalement peut-être pas de rentabilité aussi évidente qu'il n'y paraît.
Alors on a un contexte aujourd'hui qui est effectivement très problématique pour les pétroliers, c'est pétrole offshore ultra profond, ou alors encore les pétroles de schiste aux États-Unis ou les sables bitumineux, tous ces pétroles non conventionnels et extrêmes qui ont été développés au cours des dernières années lorsque le baril était très élevé, aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de rentabilité énormes. Alors c'est aujourd'hui, peut-être que demain, d'ici un an ou deux, le baril va remonter. Ce qui est sûr, c'est que tant que la planète économique aura besoin de carburant abondant sous forme de pétrole, on ira chercher ce pétrole. Mais on est confronté, on n'est pas très très loin d'une limite. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'océan Arctique, même les pétroliers les plus ambitieux, je pense à Shell par exemple ou à Exxon, renâclent, ont très peur d'aller investir au pôle Nord, tout simplement parce que le risque environnemental est derrière. Le risque économique collatéral pour eux est colossal. Donc il y aura un jour une limite. Le pétrole est une ressource tarissable, une ressource épuisable. Et je pense que plutôt tôt que tard, on sera confronté à une limite dans les capacités d'extraction. On voit très bien aujourd'hui qu'il faut aller chercher, c'est déjà un indice de ça, le pétrole dans des endroits de plus en plus lointains, de plus en plus au large et de plus en plus en profondeur. C'est pas par plaisir que les pétroliers font ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix.
Hervé, dernière intervention.
Shell ne va pas en Arctique aussi parce qu'il y a un mouvement citoyen en Californie et aux États-Unis qui était très important. Est-ce que vous pensez que la pression des citoyens ou des ONG en France pourrait aussi freiner la recherche à grande exploration, à grande profondeur du pétrole?
Bien sûr. La société civile a un rôle décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, derrière, il faudra une volonté politique et un consensus politique beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui, à mon avis, pour faire avancer les choses réellement. On se rappelle de l'abandon de l'écotaxe, ce système de taxation pour les poids lourds. Il y a un chemin très important entre ce que peuvent faire les militants très préoccupés par le climat et ce que pense Monsieur Tout-le-Monde, et Monsieur Tout-le-Monde est un automobiliste aujourd'hui encore.
Merci Mathieu Zano, auteur donc de ce livre Or Noir, la grande histoire du pétrole, et puis Hervé, bien sûr, on retrouve reporter.net avec le suivi de ce colloque, j'imagine, qui démarre donc demain à Pau.
Tout à fait, pendant 3 jours.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine Hervé, et à demain Catherine, pour
demain,
une nouvelle
Mathieu.
Une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, fumée pendant la grossesse modifie l'ADN du fœtus. Ce problème déjà repéré par les chercheurs vient d'être confirmé par une étude américaine de grande ampleur réalisée auprès de 6000 femmes enceintes à travers le monde. Les scientifiques ont prélevé et analysé des échantillons de sang de cordon ombilical chez des femmes plus ou moins fumeuses. La modification chimique de l'ADN observée est la même que celle qui intervient chez des adultes fumeurs. Certains des gènes concernés par cette modification ont été identifiés par les chercheurs. Il s'agit notamment de ceux qui jouent un rôle dans le développement développement des poumons et du système nerveux. Selon l'étude, nombre de ces altérations épigénétiques étaient encore visibles chez des enfants plus âgés dont la mère a fumé pendant la grossesse. Une exoplanète presque entièrement recouverte de lave, la NASA vient de dévoiler les résultats de ses dernières observations de la super-Terre 55 Cancri E, c'est son nom. Découverte en 2004, cette énorme planète rocheuse située à près de 40 années-lumière de la Terre présenterait des températures extrêmement chaudes à sa surface pouvant aller jusqu'à 2700 degrés Celsius. En cause, la proximité de l'orbite de l'exoplanète vis-à-vis de l'étoile autour de laquelle elle tourne, puisqu'en effet elle se trouve à moins d'1,5 million de kilomètres, soit 100 fois moins que notre Terre par rapport au Soleil. Et puis des restes archéologiques vikings découverts sur l'île de Terre-Neuve au Canada. C'est une nouvelle qui pourrait bouleverser le mythe américain. Une équipe de chercheurs a mis donc au jour les restes d'un site qui pourrait avoir été construit par les navigateurs scandinaves. Outre un foyer destiné à une forge, les fouilles ont permis de découvrir 9 kilos de scories, c'est-à-dire des résidus de fer transformés à partir de tourbe. Un procédé bien connu des vikings, jusqu'à la présence justement des vikings en Amérique, qui n'avait été confirmée qu'à l'extrême nord de Terre-Neuve. Cette découverte, faite 500 km plus au sud de l'île, relance donc l'hypothèse d'une installation viking ayant permis l'exploration du littoral américain.